Bonjour amis auditeurs, Silène avec vous pour votre émission Jésus parle aux jeunes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cycle d'émissions avec un livre écrit par François-Xavier Bellamy, qui est normalien et agrégé de philosophie et enseignant. Il a écrit un livre qui s'appelle Demeure, pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel. Et c'est ce livre que je vous propose que nous explorions ensemble pour ce nouveau cycle d'émissions. Alors, c'est un livre qui date de 2019, dans lequel François-Xavier Bellamy analyse le changement, le monde dans lequel nous sommes, où tout change autour de nous, avec un rythme effréné, dans un monde qui a fait du mouvement un impératif universel. Et c'est un livre sur le fait que finalement le monde occidental aujourd'hui est fragilisé par une forme d'épuisement intérieur avec l'accélération sans cesse de notre vie, des innovations technologiques, etc. Et le but de ce livre est de montrer que on a peut-être fait du mouvement un impératif, mais que à la source de tout changement doit quand même demeurer des choses stables, des bases solides. Voilà. Voilà, nous allons voir un peu comment François-Xavier Bellamy développe son raisonnement tout au long de cette idée, tout au long de son livre. Alors, dans l'introduction de ce livre, il nous fait part d'une lettre de l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Donc il nous remet dans le contexte. Donc il nous dit, donc il nous raconte, hein, il nous dit: la nuit tombe sur la Marsa. Sur les pistes, le bruit des moteurs s'est éteint. Le mouvement incessant des avions a laissé place pour quelques heures à une éphémère tranquillité. En cet été 1943, le danger s'est éloigné des côtes tunisiennes, qui viennent d'être libérées après d'intenses combats contre les forces de l'Axe. Américains, Anglais et Français ont pris le dessus sur les troupes de l'Afrika Korps et les régiments italiens. L'aérodrome d'El Aouina, durement frappé quelques semaines plus tôt par les bombardements, est devenu une base de départ pour les raids et les vols de reconnaissance vers l'Italie ou la France. La guerre dure encore, sans doute pour longtemps, et les pilotes cantonnés à la Marsa partent chaque jour tutoyer la mort. Mais la ligne de front s'est déplacée, l'ennemi semble loin, et quand vient l'heure de la relâche, on peut désormais s'installer dans l'illusoire sécurité de l'arrière. Dans la pénombre qui gagne, on n'entend plus que la musique étouffée d'un poste de radio qui grésille dans un baraquement, et le vent qui apporte, avec un peu de fraîcheur, la sourde vibration de la ville, les échos de Tunis tout proche. Quelques hommes se détendent, jouent aux cartes, la plupart dorment, l'un d'entre eux veille. Le commandant Antoine de Saint-Exupéry partage sa chambrée avec deux militaires américains. Il est beaucoup plus âgé qu'eux, beaucoup trop âgé d'ailleurs pour voler encore. Il vient d'avoir 43 ans, ce qui est bien au-delà des limites fixées pour les pilotes, exposés à des missions de guerre, à des vols en haute altitude, sur des avions qui mettent à rude épreuve les organismes même les plus robustes. Et robustes, Saint-Ex ne l'est guère. Mon état physique, écrit-il en juin 1943 au docteur Pélissier, me rend tout difficile, comme une ascension de l'Himalaya. Mais ce qu'il confie à un vieil ami, il se garde bien de l'avouer à ses camarades, et surtout à la hiérarchie militaire. Il a fait le siège des plus hautes autorités pour avoir le droit de reprendre du service. À force de persévérance, il a fini par obtenir la dérogation improbable et tant espérée, et le voilà de nouveau parmi les pilotes du groupe 233, ce groupe que le monde entier a découvert en lisant Pilotes de guerre. Il importe d'abord de prendre en charge, y écrivait Saint-Ex. Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable. Chacun est seul responsable de tous. Ce sentiment de responsabilité a poussé l'aviateur et écrivain qui avait, de son propre aveu, tout toutes les raisons de rester et d'immobile de réforme, à quitter son exil américain et à multiplier les démarches pour obtenir le droit de prendre sa part de l'épreuve. Je ne pars pas pour mourir, je pars pour souffrir et ainsi communier avec les miens. Cette communion, il l'a voulu contre tous les règlements, contre toute prudence, contre les conseils inquiets de ses amis. Le droit de risquer sa vie pour son pays occupé, il l'a sollicité, réclamé, négocié même par tous les moyens possibles. Il l'a finalement obtenu. Le voilà sur cette base militaire américaine où le groupe 233 vient de s'installer. Le voilà de nouveau presque chaque jour dans le ciel. Pourtant, Saint-Ex n'est pas heureux. La fatigue physique, la complexité du vol sur ces nouveaux avions qui ne lui seront jamais familiers, la rudesse de la vie militaire dont il s'était déshabitué, tout cela pèse sur son moral, bien sûr. Mais en ce soir de juillet 1943, il y a dans la tristesse de Saint-Ex quelque chose d'autre, autre chose que cette lassitude ou que ces difficultés dont il ne cesse de se plaindre. Il y a dans le regard de l'écrivain une inquiétude nouvelle qui se formule peu à peu, un pressentiment, une angoisse. C'est cette angoisse qu'il couche sur le papier, puisque, selon ses dires, l'homme n'est guère capable de ressentir que ce qu'il est capable de formuler, ce par quoi il est clair que les mots sont nécessaires à notre vie intérieure. Ces mots, Saint-Ex les note, de son écriture presque illisible, à la faveur d'une mauvaise lampe. Ses deux compagnons de chambrée dorment déjà, écrasés de fatigue. Il écrit. La lettre qu'il rédige ce soir-là sera retrouvée un an plus tard dans ses papiers. Il ne l'a jamais envoyée. À qui était-elle destinée? Mystère. Saint-Ex s'adresse à un général, peut-être Bétouard ou Chambes, dont il était proche. Aucun indice n'ayant pu permettre d'identifier avec certitude ce destinataire, le courrier sera publié sous le titre de « Lettre au général X ». Peut-être est-ce mieux ainsi, de ce général inconnu, chacun peut prendre la place. Il faut lire et relire cette lettre qui éclaire avec tant d'acuité les questions de notre temps. Elle commence pourtant simplement par l'évocation de la routine à laquelle le commandant de Saint-Exupéry se consacre désormais. « Je viens de faire quelques vols sur P-38. C'est une belle machine. » Une belle machine bien plus rapide que les vieux Breguet sur lesquels volaient les hommes de l'aéropostale, au-dessus des déserts et des océans. La vitesse avait enivré le jeune pilote dans ses expéditions périlleuses, au point qu'il avait failli laisser la vie dans un raid Paris-Saïgon, entrepris pour l'aventure. Mais 20 ans plus tard, cette passion pour la vitesse apparaît dans sa vacuité. Ici, François-Xavier Bellamy cite la lettre de Saint-Exupéry qui dit « Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l'est pas. C'est sans doute quand j'avais 20 ans que je me trompais. En octobre 1940, de retour d'Afrique du Nord, où le groupe 233 avait immigré, ma voiture étant remisée, exsangue, dans quelques garages poussiéreux, j'ai découvert la carriole et le cheval. Par elle, l'herbe des chemins, les moutons et les oliviers. Ces oliviers avaient un autre rôle que celui de battre la mesure derrière les vitres à 130 km à l'heure. Ils se montraient dans leur rythme vrai qui est de lentement fabriquer des olives. Les moutons n'avaient pas pour fin exclusive de faire tomber la moyenne. Ils redevenaient vivants. Ils faisaient de vraies crottes et fabriquaient de la vraie laine. Et l'herbe aussi avait un sens puisqu'ils la broutaient. Et je me suis senti revivre dans ce seul coin du monde où la poussière soit parfumée. Je suis injuste, elle l'est en Grèce aussi comme en Provence. Et il m'a semblé que durant toute ma vie, j'avais été un imbécile. » Voilà, amis auditeurs, c'est ici que je vous laisse avec l'extrait de ce début de lettre de Saint-Exupéry. J'espère que cette première émission vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.